Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la réforme de l'État et de la théorie des organisations. La réforme de l'État est un vrai sujet. On a aujourd'hui un État français qui est en gros en perte de à peu près 25% de son chiffre d'affaires. Donc pour toute entreprise normale, ce serait bien sûr une cata. Les gens expliquent que l'État, c'est pas une entreprise normale, que l'État peut pas faire faillite, que finalement c'est fonction de la confiance qu'on lui accorde. Toutes choses qui sont vraies, probablement avec une forme de limite quand même. Cette limite, c'est que la sensibilité de l'État à la perte de confiance devient de plus en plus importante. Et à tout moment, une tension sur les taux d'intérêt français, l'impression que les Français, la dette française devient un junk bond, ferait passer le coût de financement de l'État de zéro aujourd'hui à peut-être 4, 5, 6, 7%. Probablement pas pendant les 7 ou 8 ans qu'il faut pour que l'ensemble de la dette française soit ramenée à ce montant. Mais peut-être suffisamment pour assécher la capacité de ceux qui souscrivent habituellement de la dette française à le faire. Et donc, il y a certainement là-dedans des effets de bord insoupçonnables. Alors la question est pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette réforme? On est face à des gouvernants qui, à chaque nouveau gouvernement, cherchent à imposer leur réforme. Et quand on se place du point de vue des hauts fonctionnaires, on voit qu'ils subissent année après année des nouvelles réformes, tout étant supposé être la dernière et la bonne. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. La dépense de l'État ne baisse pas. Les investissements en font les frais au lieu d'avoir des charges qui en font les frais. Donc on a un État qui investit de moins en moins, notamment dans les infrastructures, et qui consomme de plus en plus. Qu'est-ce qui peut expliquer cette incapacité des politiques? Il y a bien entendu leur incompétence. Je dis ça sans aucune agressivité, mais je vois pas beaucoup d'hommes politiques français qui aient eu une véritable expérience de management, d'organisation, qui aient une vraie compréhension de la complexité d'une organisation. Macron n'a jamais dirigé des grandes organisations. Notre Premier ministre Édouard Philippe a dirigé une mairie. Enfin, c'est pas ça qui permet de bien comprendre la bonne façon de diriger quelque chose. Et d'ailleurs, leur réaction face à ces sujets en dit long sur leur compréhension des organisations. J'entendais ce matin la réaction de Le Maire, notre ministre de l'économie, sur la façon dont un parachute doré a été actionné pour départ à la retraite d'un dirigeant d'une société qui s'appelle Technip. Il se trouve que l'année dernière, Technip a perdu 2 milliards d'euros. J'ai pas regardé ce que Technip avait gagné au total sur le total du mandat de ce dirigeant. Maintenant, ce que je peux voir avec facilité, c'est le fait que Monsieur le maire, quand il va partir du ministère, aura des avantages, aura une forme de parachute doré, alors qu'il dirige une organisation qui est en perte et de bien plus que 2 milliards et depuis bien plus longtemps que l'année dernière. Bon, maintenant, comment peut-on expliquer au-delà de ça le fait que dans beaucoup de pays, on a aussi ce même problème à se réorganiser. Et je voudrais mettre ça sur l'aspect théorie des organisations, c'est-à-dire le fait que ces organisations agissent comme des corps constitués, comme des corps biologiques, comme des organismes qui souhaitent survivre et qui souhaitent continuer à prospérer. L'ensemble des fonctionnaires qui composent, la quasi-totalité des fonctionnaires qui composent l'État français sont bien entendu dans une impression qu'ils font le mieux de ce qu'on peut pour aider la France et servir la France. Néanmoins, quand vous discutez avec eux, vous entendez un espèce de double discours. Ce discours devient d'une part, nous, on sait exactement ce qu'il faut faire pour réformer la France et l'État. Si on avait le pouvoir, on le ferait. Et puis, un peu plus loin dans le discours, de toute façon, quand un ministre envoie une directive, c'est mon devoir de la filtrer pour ne pas assommer mes managers sous le monceau de production d'un cabinet qui vont chacun produire leurs notes tous les 2 jours. Donc cette contradiction montre que on a des fonctionnaires qui en fait ne savent pas vraiment ce qu'il faudrait faire. Et on a des fonctionnaires qui, bien que conscients d'une nécessité de réforme, ont leur propre agenda et prennent leurs propres décisions face à ce qu'ils perçoivent comme des bonnes ou des mauvaises réformes. Ce n'est pas un problème français. L'exemple de ce qui s'est passé aux États-Unis avec le bras de fer entre Donald Trump, le président américain, et le Congrès sur la mise dans le budget d'un montant suffisant pour financer la construction du mur entre le Mexique et les États-Unis. Quand on regarde la façon dont a été géré ce bras de fer du point de vue de l'administration, on s'aperçoit qu'elle n'a pas été neutre, elle n'a pas été passive. L'administration s'est arrangée pour résister en faisant porter aux citoyens un coût incroyablement élevé à ce manque de budget qu'elle subissait. Alors, comment? En coupant en premier les dépenses qui concernent les citoyens. Par exemple, aux États-Unis, et c'est comme c'est maintenant le cas en France, il y a un prélèvement à la source et les citoyens demandent un remboursement de ce qui a été trop payé dans les impôts eu égard à leur situation personnelle. Et les Américains attendent beaucoup de ces chèques que le gouvernement fédéral leur envoie. Sauf que pendant la crise entre l'exécutif et le législatif, et donc pendant ce moment où plus d'argent n'était supposé arriver dans... Enfin, l'État était supposé n'avoir plus d'argent car il ne pouvait plus lever l'impôt. Il continuait manifestement à lever l'impôt et il n'envoyait plus les chèques de remboursement. En arguant du fait que, désolé, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources pour pouvoir assurer le fonctionnement normal du service. Donc vous pensez que les citoyens sont devenus très concernés par quand est-ce que finit ce shutdown. De la même façon en France, à chaque fois qu'on va parler de réforme de l'État, de réduction des dépenses de l'État, on a un discours quasi automatique qui est lancé en premier par les fonctionnaires et les syndicats qui les représentent. Et la question devient, vous voulez réduire la taille de l'État, mais vous avez vraiment envie de ne plus avoir d'infirmières, de pompiers, de policiers, de gardiens de prison, mais vous êtes irresponsable. Et ma réponse, évidemment, est non, cela, je veux les garder. C'est les autres que je souhaiterais voir réduire. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture Ils sont, pour par exemple, le ministère de la Pêche a plus de fonctionnaires qui viennent de pêcheurs. Le ministère de l'Agriculture n'a pas réduit sa taille alors que la part des agriculteurs a singulièrement réduit. Sans pour autant être extraordinairement efficace si on en juge par les résultats de l'industrie agroalimentaire française. Donc, l'importance de prendre en compte cet aspect théorie des organisations quand on réagit sur quand on essaie d'agir sur le périmètre de l'État me paraît être la vraie clé pour proposer à un organisme vivant qu'est l'administration une perspective de vie, une perspective d'existence, de raison d'être, qu'aujourd'hui on ne leur offre pas en faisant systématiquement des réformes qui sont à la fois très, très court terme et à la fois très technique avant d'être des réformes d'objectifs, de vie, des réformes de raison d'être pour l'administration française. Voilà mes réflexions sur le sujet et à bientôt pour un nouvel épisode. Alors une fois qu'on a réfléchi sur le rôle de la théorie des organisations ou sur l'impact de la théorie des organisations dans la réforme de l'État, la question d'après devient comment est-ce qu'on fait pour modifier ça, comment est-ce qu'on fait pour avoir un impact sur l'État, pour réformer l'État. C'est une réflexion qu'on a régulièrement avec mes camarades du think tank Infrastructure France que j'avais fondé avec Thierry Lidolf et avec Jean Poulitte. Le sens de ma réflexion aujourd'hui est qu'il y a deux projets majeurs, peu coûteux, avec des effets de long terme à mettre en place pour réformer l'État. La première mesure, à mon sens, la plus importante, c'est la réforme de la comptabilité de l'État. L'État français actuellement a un système de comptabilité qui date de l'après-guerre, qui est complètement dépassé. Je ne suis pas persuadé que la comptabilité des entreprises est beaucoup beaucoup mieux, mais en tout cas, elle apporte une distinction qui est essentielle, la différence entre une charge et un investissement. Pour l'État français, il n'y a aucune vraie distinction, c'est-à-dire que en coupant ses investissements, eh ben, il réduit son budget et tout va bien. Alors que en coupant la réparation des routes, on peut se demander si tout va bien. En réduisant les investissements dans un hôpital, on peut se demander si tout va bien. En ne donnant pas les moyens à ses militaires ou à ses policiers d'agir, il se donne l'impression qu'il a réduit ses dépenses. C'est probablement ce qui explique que depuis 40 ans, l'État explique à tout le monde qu'il est en train de faire, qu'il est en train de faire des efforts, qu'il est en train de réduire son train de vie, alors que les dépenses ne cessent d'augmenter. La grosse différence est que il réduit ses investissements de temps à autre, ses dépenses dans les infrastructures, ses dépenses dans les équipements militaires, dans les équipements scolaires. Et en revanche, il est incapable de réduire sa dépense en matière de salaire et de charges, c'est-à-dire que il est dans un système où sans faire aucune augmentation de salaire, donc un gelé à 0%, il est déjà à peu près à 1,5% de croissance de sa charge, de ses charges salariales, de sa masse salariale juste par ce qu'on appelle le GVT, c'est le glissement vieillesse technicité, c'est-à-dire le fait que ces fonctionnaires, en prenant de l'âge, ont une augmentation mécanique de leur salaire et ont aussi, en passant des concours et des diplômes, une augmentation mécanique de leur salaire. Donc rien que ça, c'est 1,5% de croissance de la masse. Si on rajoute derrière un petit coup de pouce sur les salaires, eh bien on peut monter à 2-3% par an. Et ça, c'est en soi, c'est énorme. Mais ça ne se voit pas parce que finalement, le budget est complètement masqué dans une confusion entre ce qui est du domaine de l'entretien de l'État, de son fonctionnement, et ce qui est du domaine des infrastructures, des investissements et de leur maintenance, c'est-à-dire du fait qu'on va ou pas faire des provisions, qu'on va ou pas mettre de côté en faisant des amortissements, et ce qui permet à des collectivités de rééquilibrer leur budget en coupant leurs dépenses, coupant leurs investissements. Et c'est un vrai problème pour les générations futures, évidemment. Si vous voulez regarder le rapport du ministère des Transports qui effectivement annonce qu'un pont sur 10 est en danger et que une route sur deux mériterait réparation, on a un État qui ne fait plus son boulot, mais il ne le fait plus parce qu'il ne sait pas qu'il ne le fait pas. Et le défaut d'information en n'ayant plus un système de comptabilité qui représente clairement la situation, c'est un vrai, un vrai danger dans la prise de décision. La deuxième grande idée, c'est quelque part d'en arrêter avec l'État royal. L'État est issu d'une construction qu'on doit au roi de France. Les rois de France ont cherché à mettre en place une administration et pour ça, ils ont utilisé un système qui est le système de la charge, c'est-à-dire qu'on propose à des gens d'éducation suffisante de postuler pour s'occuper d'une partie du travail de l'État. Récupération des impôts, aménagement des routes, ou administration de la justice sur tel ou tel élément. Et ça, c'est une mode d'organisation qui finalement n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire que on administre au nom du roi, et depuis la Révolution, on administre au nom de l'État. Donc, les agents de l'État ne sont pas responsables pénalement de leurs actes, et surtout, en cas de problème avec l'État, ça se règle devant des tribunaux dits administratifs, qui est un des derniers tribunaux d'exception. C'est un tribunal dans lequel on se retrouve face à un juge qui, par définition, est un fonctionnaire, pour juger des contentieux que l'on a avec des fonctionnaires. Alors c'est assez simple, hein, devant un tribunal administratif, on perd à 80% des cas, donc ce qui semblerait dire que ben, l'administration est bien plus rigoureuse, bien plus... ou bien ce qui peut dire que dans un contexte où on peut légitimement penser que tout le monde a que les torts sont partagés, eh ben il y a un système de jugement qui est biaisé. Alors les juges du tribunal administratif ne sont pas des spécialistes du droit, hein. Ce sont des fonctionnaires qui ont, après 10 ou 15 ans de carrière, décidé de devenir juge au tribunal administratif. Donc leur formation en droit est rudimentaire, c'est une vague peinture de droit administratif. Et finalement, leur vision de la chose, c'est que l'État est finalement le représentant du roi et que du coup, il ne peut avoir tort que dans des cas vraiment exceptionnels. Alors après ça, il y a bien sûr l'appel et le passage devant le Conseil d'État, mais le Conseil d'État étant saturé, il va faire un tri avant toute chose, un tri pour savoir quelles sont les affaires qui lui paraissent être des affaires importantes ou pas. et ce qui va limiter très fortement la capacité du Conseil d'État à revenir sur des tendances ou à revenir sur des jurisprudences, puisqu'en fait, dans la pratique, ce sont des stagiaires de Sciences Po qui vont être chargés d'instruire les dossiers et de voir s'il y a matière ou pas à les retenir dans un jugement du Conseil d'État. Et leur façon de régler ça est bien entendu, en tant que stagiaire, d'essayer d'appliquer à la lettre le droit et non pas de chercher l'esprit du droit et non pas de chercher les besoins de novation du droit qui est normalement l'apanage d'une autre cour. Donc, on a un système bloqué. On a un système bloqué qui a des effets, c'est que l'administration est très consciente qu'elle ne risque rien, et donc du coup, elle est dans un rapport de force permanent au lieu d'être dans une recherche permanente d'un équilibre entre ses administrés et elle. Le changement de ce droit d'exception en passant par des tribunaux qui seraient eux légitime, complètement équilibré, aurait pour effet de changer dans la profondeur les procédures, les comportements des agents de l'État. Donc voilà mes deux idées sur la façon de pouvoir réformer l'État. Je ne crois pas que ça vienne de changements dans les organisations, de négociations avec les syndicats pour des licenciements, pour etc. Je pense que tout ça se passerait très bien si l'État avait des nouvelles contraintes et que les façons de changer les contraintes, c'est de changer les règles du jeu et la mesure de l'action publique. Voilà, c'était mon opinion, je vous la partage et j'attends avec impatience vos commentaires. À très bientôt.